Radio Univers.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Agora, où se mêlent expériences et réflexions sur ce monde que nous partageons. Une sorte d'université populaire sonore. C'est maintenant sur les ondes d'univers. Une quarantaine d'années après mai 68 et la revendication par les femmes de l'égalité vis-à-vis des hommes, les inégalités persistent. Que ce soit dans la répartition des tâches domestiques, comme au niveau professionnel et de salaire, dans les relations comme dans les représentations collectives, les différences de traitement continuent. Cependant, il ne faut pas oublier que des progrès se sont aussi opérés, par exemple en matière de niveau scolaire, dans la représentativité politique ou la maîtrise de leur propre corps, les femmes sont parvenues à conquérir les moyens de leur autonomie. Si le panorama est divers, en fait, on ne peut agir sur ces problèmes sans prendre en compte les mutations du contexte de nos sociétés qui imposent de nouvelles contraintes et déplacent les inégalités. Alors, où en est cette lutte pour l'égalité homme-femme? Quelles ont été les évolutions depuis 40 ans? Quelles sont les nouvelles inégalités? Quelles ont été les différentes formes prises par le féminisme dans l'histoire? Et pourquoi concerne-t-il l'ensemble de la population? Quelles nouvelles formes doit-il prendre aujourd'hui? Ce sont les sujets abordés dans cet entretien avec Annie Ginter, titulaire de la chaire d'égalité entre hommes et femmes à l'université de Rennes 2 et professeure de droit privé. Nous l'avons rencontrée à la 3e biennale de l'égalité hommes-femmes à Saint-Malo. Annie Ginter, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire d'études sur l'égalité entre hommes et femmes à l'université de Rennes 2. Vous êtes aussi professeur de droit privé. Alors nous sommes ici à la 3e biennale égalité hommes-femmes de Saint-Malo, qui est organisée par la région Bretagne. Vous êtes intervenu aujourd'hui justement sur cette question de l'égalité hommes-femmes. Alors 40 ans après mai 68 et la revendication par les femmes de leur droit à l'égalité, qu'en est-il aujourd'hui ?
Alors, sur le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est très difficile de raisonner en termes de progression ou de régression. Tout simplement parce que lorsqu'on étudie les statistiques, les données, les chiffres qui font preuve sur le sujet et qui permettent de mesurer les écarts entre justement les principes d'égalité tels qu'ils sont formulés par le droit et la situation économique, sociale et politique des femmes et des hommes dans notre pays, ou on va dire dans l'ensemble des pays industrialisés, on voit que en fait il y a des inégalités dites traditionnelles qui perdurent. Si on regarde par exemple la division des rôles dans la sphère domestique, l'absence de partage des tâches, ben on a là quelque chose qui est extrêmement ancien et qui continue de stagner d'une certaine manière, puisque les enquêtes emploi du temps des ménages nous montrent que la participation des hommes aux travaux ménagers, c'est-à-dire le noyau dur des travaux ménagers, cuisine, ménage, vaisselle, etc., reste faible par rapport à la participation des femmes aux tâches ménagères. Il y a par ailleurs des inégalités qui régressent. Si on prend la situation des filles dans la sphère scolaire et particulièrement leur performance, elles sont de plus en plus diplômées et plus diplômées que les garçons. Si on regarde aussi les taux d'activité des femmes, les femmes rentrent dans l'activité sur le même modèle que les hommes pour s'y réaliser et y rester dans la continuité. Bon, là, on a des indicateurs de progrès. En revanche, si on regarde les inégalités dans la sphère professionnelle du point de vue du déroulement des carrières du point de vue de l'accès des femmes aux postes de responsabilité dont on pourrait s'attendre, vu leur performance scolaire, que ça progresse, eh bien là, on a des recompositions de phénomènes inégalitaires qu'on appelle la ségrégation verticale du marché du travail, le plafond de verre, et qui se traduisent par des écarts de rémunération qui sont importants, puisqu'ils sont en moyenne de 27% entre les femmes et les hommes en salaire net moyen annuel. Et plus elles sont qualifiées, plus les écarts sont importants entre les femmes cadres et les hommes cadres. Donc vous voyez, on a un panorama extrêmement contrasté et il vaudrait vraisemblablement mieux parler de recomposition des inégalités, de déplacement un peu des frontières. C'est-à-dire que si on compare la situation des femmes aujourd'hui à celle de leur mère et leur grand-mère, on peut dire qu'il y a des progrès, notamment en termes de féminisation de nos structures sociales. Maintenant, si on compare leur situation avec celle de leurs frères, ou de leurs amis du même âge et même génération, eh bien, l'égalité n'est pas au rendez-vous.
Finalement, il ne faut pas avoir une lecture historique dans le sens où, évidemment, si on se repose simplement sur le passé, on voit qu'il y a un progrès pour les femmes, mais malgré tout, les inégalités persistent entre hommes et femmes, si je comprends bien.
Alors, il faut avoir une lecture historique. C'est très important d'avoir une lecture historique pour justement comprendre que l'évolution vers l'égalité, ce n'est pas une évolution linéaire, si vous voulez. Il n'y a pas un processus naturel qui conduirait nos sociétés, en raison de la féminisation, vers l'égalité. L'égalité, c'est un projet politique. Comme je disais tout à l'heure, pour la faire, il faut la vouloir. Et pour la vouloir, il faut développer du partage du pouvoir dans l'espace politique, dans l'espace professionnel, dans l'espace privé. Et il faut construire des savoirs pour comprendre, des savoirs d'expérience, des savoirs vécus des inégalités, et du savoir des sciences, et en particulier des sciences sociales et humaines, pour comprendre comment ces phénomènes d'inégalité se recomposent. Si vous voulez, l'égalité, c'est un projet politique, c'est une philosophie politique qui est indissociable et indétachable d'un projet démocratique. Et donc, pour que l'égalité soit au rendez-vous, il faut adopter des mesures extrêmement volontaristes, des mesures très proactives, pour qu'elle advienne dans tous les espaces de la société. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas agir que dans l'univers public. Il faut aussi agir dans l'univers privé, il faut agir dans le système éducatif. C'est un peu en tout lieu, partout et en même temps, et sans relâche, pour que les inégalités ne se recomposent pas. Parce que le fond de tout ça, ce sont bien sûr les représentations, les stéréotypes, qui, eux, ne s'arrêtent pas et ont une puissance sociale extrêmement forte et conditionnent les rôles des garçons et des filles, des femmes et des hommes, on va dire, du berceau à la tombe.
Alors, si je comprends bien, justement, cette lutte contre les inégalités, c'est une lutte aussi contre ces représentations dominantes, aliénantes, et aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Si je comprends, le féminisme est une lutte qui ne se limite pas qu'aux femmes.
Bien sûr. Alors, que les femmes se mobilisent, c'est normal. Et qu'elles soient plus nombreuses que les hommes à être féministes, c'est aussi normal. Et je dirais que c'est une bonne chose, puisqu'elles ont énormément à gagner en étant féministes. Parce que c'est la lutte en faveur de leur propre émancipation, la reconnaissance de leurs droits à égalité avec les hommes qui se joue. Et dans cette affaire, il y a tout de même de la domination masculine qui est un peu le fil conducteur à travers l'histoire de ces inégalités. Donc, il est particulièrement important que les femmes œuvrent pour leur émancipation et revendiquent l'égalité et soient extrêmement engagées et actives dans le mouvement féministe. Maintenant, est-ce que les hommes peuvent être féministes ? Alors, c'est une question qui est beaucoup travaillée en ce moment par la science politique, par les sciences sociales et humaines. Est-ce que les hommes féministes sont des compagnons ou des faux amis ? Dit un de mes collègues québécois qui fait de la recherche là-dessus. Alors, il y a toujours eu, à travers l'histoire, des hommes éclairés qui ont dénoncé l'inégalité, qui ont dénoncé l'exclusion des femmes de l'espace public. Et d'une certaine manière, ils étaient féministes. Et les hommes peuvent être féministes. Maintenant, il faut faire attention, comme le dit le sociologue Éric Fassin, à ce que les hommes ne prennent pas le pouvoir dans le féminisme et qu'ils n'instaurent pas une espèce de domination, parce que c'est parfois plus facile pour un homme d'être féministe que pour une femme, parce qu'il a d'emblée une légitimité. Il n'est pas suspect quand il dit qu'il est féministe. Il n'est pas sujet et objet de sa propre analyse. Et il peut revendiquer cela comme étant une philosophie politique. Quand une femme dit qu'elle est féministe, et c'est parfois la difficulté qu'ont les femmes, il y a une espèce de suspicion qui porte sur elles, d'être sujet et objet de leur propre analyse. Parce qu'il y a une image péjorative du féminisme, alors que si on faisait la liste de tout ce que nous devons dans notre société au féminisme, de conquête à la fois dans l'espace public, dans l'espace professionnel, dans l'espace privé. Et moi, je dis que toutes les communes de France devraient avoir une statue en l'honneur du féminisme. Et tous les 8 mars, chaque année, on devrait aller la fleurir. Tellement ces conquêtes, ces droits qui nous semblent aujourd'hui des évidences, la contraception, la possibilité de partager l'égalité au sein de la structure conjugale, de la structure familiale, tous ces idéaux égalitaires qui sont en fait des conditions essentielles pour le fonctionnement démocratique, eh bien, sont des conquêtes qui proviennent du féminisme. Donc nous devrions considérer ce mouvement, qui est en plus un mouvement pacifiste. Les violences envers les femmes, ça fait couler du sang, mais le féminisme n'a pas fait couler de sang. Il est un mouvement pacifiste, et quand on revoit tous les acquis qui en résultent et toutes les contributions que cela a apportées à la démocratie, eh bien, on devrait être beaucoup moins péjoratif et avoir beaucoup moins de suspicion envers le mouvement féministe.
Logosphère. Zone autonome de parole et de pensée libre. Sur les ondes d'univers. Je continue sur cette question des rapports hommes-femmes. Est-ce que finalement un homme féministe, ce n'est pas aussi remettre en question cette représentation aliénante de l'homme aussi, dans laquelle on veut nous confiner, nous? C'est aux hommes aussi de remettre en question ces représentations-là.
Oui, bien sûr. Pas plus qu'on ne naît femme, on le devient, comme disait Simone de Beauvoir. Je crois que l'on ne naît pas homme, on le devient. C'est-à-dire que la socialisation des garçons, la socialisation des filles, elle se fait du berceau à la tombe sur des schémas de rôles, d'injonctions à des rôles sociaux qui, effectivement, doivent absolument être remis en question. Et je pense que le chantier, s'il y a un chantier du féminisme pour les hommes, c'est en particulier tout le chantier des violences envers les femmes, de la domination, et en particulier tout ce qui va dans le sens de la déconstruction d'une certaine conception de la virilité qui peut rendre les garçons préoccupés de reproduire eux-mêmes la domination, parce que n'ayant pas d'autre modèle que le modèle finalement de la virilité à exprimer, à vivre. Et il y a un énorme chantier pour les hommes, dans la socialisation des garçons en particulier, pour lutter contre ces formes de domination pathologique que sont les violences envers les femmes.
Si je comprends bien, la domination de l'homme sur la femme, c'est une forme d'aliénation pour l'homme lui-même.
Bien sûr, je pense que c'est un piège quelque part, que la domination masculine... Elle n'a pas été qu'un piège, elle est aussi un enjeu du pouvoir. C'est-à-dire que la domination des hommes sur l'espace public n'a pas que des inconvénients, elle leur a aussi permis d'exercer le pouvoir, de décider des orientations de la société, de faire des choix, de participer à des projets. Et c'est justement ce que revendiquent les femmes en souhaitant que la parité soit au rendez-vous sur le plan politique. C'est aussi leur possibilité d'agir non seulement sur les sujets qui les intéressent, qui les concernent, mais sur l'ensemble des choix que nous faisons au sein d'une société, d'être reconnues, d'avoir une place dans l'espace public. Mais effectivement, il y a peut-être un piège que ressentent en particulier les hommes aujourd'hui, les jeunes hommes, de se trouver enfermés dans une image de la virilité qui ne correspond pas du tout à la socialisation qu'on a reçue dans sa propre famille ou à des valeurs que l'on voudrait adopter, des représentations que l'on a de sa place quand on est un garçon dans la relation avec les femmes, avec les filles, et puis aussi la place que l'on voudrait occuper dans la société, dans l'espace public. On n'a pas forcément envie d'être l'homme dominant, mâle, prédateur, etc.
Alors, dernière question. Les femmes, aujourd'hui, sur quoi, selon vous, doivent-elles revendiquer en priorité leurs droits à l'égalité ?
Alors, nous avons trois grands problèmes à résoudre, qui sont des problèmes extrêmement complexes et qui ne se résoudront pas par des coups uniquement de colère, comme vient de le dire le philosophe là, que nous avons entendu cet après-midi. Il y a la question des inégalités professionnelles, qui reste un enjeu et qu'il nous faut nous dépêcher de résoudre parce que les filles sont de plus en plus formées, de plus en plus diplômées. Elles participent depuis longtemps maintenant à la vie économique et elles ne comprennent plus que ces capitaux scolaires n'aient pas le même rendement sur le marché du travail quand elles passent de l'école à la vie active que les capitaux détenus par les garçons qu'elles ont côtoyés dans la formation mixte, avec lesquels elles sont amies, conjointes, etc. Et il y a là une distorsion, une tension, une source de tension, à la fois dans les rapports sociaux entre les femmes et les hommes dans l'espace privé, mais aussi dans l'espace public et dans l'espace professionnel. Pour ne pas perdre de vue, c'est quand même 7 femmes sur 10 qui demandent la séparation. Donc il y a des injustices de ce point de vue-là qui sont des sources de dysfonctionnement qui sont inquiétantes et qu'il va bien falloir que notre société règle. La deuxième question sur laquelle il faut avancer, c'est la sous-représentation des femmes dans les processus de décision, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan de la vie économique. Il n'est pas normal, c'est même scandaleux, que compte tenu de la place qu'occupent les femmes dans la société, qu'elles ne représentent que 18,5% des femmes élues à l'Assemblée nationale et 22,1% des femmes élues au Sénat, avec une loi sur la parité qui n'est pas parfaite, qui n'est pas suffisamment contraignante de mon point de vue, mais qui existe tout de même, avec une opinion qui est favorable à la parité. Il faut absolument que les partis politiques se mettent à appliquer la loi sur la parité et que notre démocratie devienne paritaire. Et puis la troisième question, c'est évidemment les violences envers les femmes. Là, on a affaire à une barbarie moderne. C'est absolument, là aussi, révoltant. C'est une source d'indignation permanente que les femmes, dans leur espace privé, à l'ombre de l'amour, subissent les violences de l'homme avec lequel elles ont décidé de faire un bout de chemin et de partager la vie. Une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint, 75 000 viols par an, sans compter les agressions sexuelles. On a là un dysfonctionnement démocratique, une tâche sur notre démocratie qui est considérable et qu'il faut là aussi traiter. C'est quelque chose qui a un coût sur le plan de la santé, sur le plan de la sécurité, qui a un coût pour les enfants, pour les femmes elles-mêmes, pour les hommes. Enfin, c'est une problématique de société qui doit vraiment être attaquée de toutes parts, à la fois par le système éducatif, par une action sur les stéréotypes, sur ce modèle de la virilité qu'il faut essayer de travailler autrement. Et puis, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sociale, il y a dans les départements des plateformes de prévention et de répression en matière de lutte contre les violences envers les femmes. Et je pense qu'il faut continuer à déployer des efforts, à en parler, à permettre aux femmes victimes. On a tendance parfois à rejeter la victimisation des femmes. Et vous savez, la première condition pour exercer ses droits, c'est de se penser en tant que victime. Et la difficulté des femmes victimes de violences est précisément de prendre conscience que cette situation qu'elles vivent n'est pas une situation normale, qu'il faut qu'elles appellent tout de suite le 3919, qui est le numéro qui leur permet de parler de ce qu'elles vivent et de se faire accompagner, parce qu'on n'est pas dans des situations de normalité, mais bien dans des dysfonctionnements qui sont intolérables.
Alors, dernière question. Dans la discussion qu'il y avait tout à l'heure avec le philosophe Vincent Céspedes, ce qu'il appelait, c'était de rendre à nouveau désirable cette femme émancipée, indépendante de l'homme et qui affirme ses droits. Est-ce que, finalement, il ne manque pas ça au féminisme ?
Il invitait les femmes, effectivement, à se mettre en colère, à se révolter, à faire de l'insurrection, oui. Mais comme je lui ai rappelé, les femmes ne l'ont pas attendu. C'est-à-dire, le féminisme a une histoire qui est faite de différentes formes. Le féminisme n'est pas univoque, il a été réformiste, révolutionnaire, radical. Il a été un féminisme dont les priorités ont été le suffrage, puis la revendication de l'émancipation et l'égalité en matière de droit. Il a porté aussi sur la revendication de la maîtrise de la fécondité par les femmes, la possibilité d'avoir le droit à l'avortement et la contraception. Donc, il a adopté des formes extrêmement diverses tout au long de son histoire, qui finalement est à la fois ancienne, mais si on adopte le point de vue d'histoire, pas tant que ça, parce que c'est fin 18e, début 19e, jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les femmes se mettent en colère, sont révoltées, dénoncent les injustices. D'ailleurs, c'est le but de cette biennale de l'égalité, c'est de montrer le formidable travail effectué par l'ensemble des associations qui défendent la cause des femmes, qui essaient de faire avancer le droit des femmes, qui sont des associations féministes, les institutions qui mettent en place des programmes en faveur de l'égalité. Donc je crois qu'ils surfent un peu là sur la vague du féminisme, parce que c'est toujours plus facile de toute façon pour un homme, parce qu'il a d'emblée une légitimité quand il parle de ces questions, puisqu'il n'est pas suspect d'être objet, sujet de sa propre analyse. Alors c'est plus compliqué parfois pour les femmes de se dire féministe, parce qu'elles savent que se dire féministe, ça a un coût. C'est un coup parce que c'est souvent encore perçu comme un gros mot, comme un tabou, de manière péjorative, et qu'on va leur demander de se justifier, de rapporter la preuve qu'elles ne sont pas dans la transgression, qu'elles ne sont pas des sorcières qui brûlent leur soutien-gorge, selon le mythe répandu autour de 68, alors que jamais les femmes n'ont, sur la place publique, brûlé leur soutien-gorge. Mais tout ça contribue, je crains, à mépriser le mouvement féministe, à développer une sorte de féminisme, d'anti-féminisme un peu à rebours que je ne trouve pas personnellement très sain.
Annie Ginter, merci.
Merci à vous.